N'oublie pas ton vinyle, pense à tes fossiles. As-tu pris ton rimmel? Mon Dieu, ce que t'es belle. T'as pensé à Betty, à coiffer sa perruque. Repasse sa robe fuchsia, faut qu'elle étincelle. Mais ça fait des mois que je ne pense qu'à moi. Ça me prend du temps d'être un extravagant. Pense à cirer mes pouces, prendre ma veste à rayures, ma cravate indigo. Je fonce vite à la radio. Où est passée ma guitare? Roule-moi vite un cigare. Pense à mes partitions. L'assassin me doit des ronds. Mais ça fait des mois que je ne pense qu'à moi. Ça me prend du temps d'être un extravagant. Mais ça fait des mois que je ne pense qu'à moi. Je regarde passer les filles qui font leur course en récit. J'ai mon cornet vanille, tout est bourriffé. Ce soir je fais un concert, j'ai une patate d'enfer. Et je vais toutes les faire chanter sur mes succès. Mais ça fait des mois que je ne pense qu'à moi.
Ce soir, donc, c'est notre Zoom écologie de la fin d'année et nous avons ce soir une configuration un petit peu particulière puisque notre complice Sophie Roux est allée voir ailleurs ce qui se passait.
Je t'emmène au pays des cigales.
Elle est peut-être partie au pays des cigales. Nous sommes toujours au pays du bitume, mais nous allons pouvoir d'une certaine manière nous évader ce soir en évoquant un sujet qui nous emmènera dans les forêts tropicales, dans les réservoirs de biodiversité, puisque nous allons parler ce soir de biopiraterie. Alors tout le monde se demande, mais qu'est-ce que la biopiraterie ? Nous allons le savoir avec Mathieu Mellul du collectif pour une alternative à la biopiraterie. En studio, donc dans le bocal à la technique ce soir, Alexandre Ribaud, qui d'habitude introduit ces sujets, essaye de faire au mieux pour la technique, puisque Cyril, notre autre complice, lui, est à Notre-Dame-des-Landes, hein, toujours mobilisé pour dire non à ce projet des années 50 qu'on essaye de nous resservir en 2013. Et nous serons également en compagnie du Grand Fousset. Alors, le Grand Fousset était petit, hein, il a été le Petit Fousset, mais je peux témoigner, vous n'avez pas l'image, il est devenu très, très grand. Il a une roulotte, hein, d'ailleurs, aux Champs-Élysées, un mobile home, et il nous chantera tout à l'heure une chanson. Comme d'habitude, on aura droit à notre petit concert privé sur Zoom.
tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Donc la biopiraterie, je crois que d'abord, il faudrait nous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est le détournement de la bio par des vilains pirates ? Alors oui, en quelque sorte, mais vous allez, Mathieu, nous expliquer en détail de quoi il s'agit.
Bonsoir. Je vais essayer du moins, de vous expliquer ce que c'est que la biopiraterie. À notre sens, ça désigne l'appropriation illégitime des ressources génétiques qui sont associées à des savoirs traditionnels.
Alors moi, je vais là l'illustrer par un exemple, si vous le permettez, Mathieu.
Je vous en prie.
Alors imaginons que notre grand-mère fabrique un super gâteau depuis des années et des années, et vraiment ce gâteau, on le trouve très très bon. Eh bien, au lieu d'aller voir la grand-mère de temps en temps et de lui demander de nous donner, de partager ce gâteau, en fait, on va s'introduire dans son jardin, on va piquer les ingrédients qui servaient à ce jardin, on va lui piquer la recette, et ensuite, on va dire à la grand-mère, « Eh bien, non, mamie, tu n'as plus le droit de fabriquer ce gâteau, tu n'as plus non plus le droit d'en manger et tu n'as pas le droit de le vendre non plus. » Est-ce que ça se rapproche ?
Alors, c'est exactement ça. Si vous voulez, c'est un très bon exemple. C'est exactement ça. Et en plus, si vous voulez, le gâteau de votre grand-mère, plus précisément la recette de gâteau, ou on pourrait dire par exemple la recette du pain au chocolat, pour prendre un exemple comme ça que tout le monde connaît, fera l'objet d'un brevet. Donc vous allez officiellement vous approprier la paternité de cette merveilleuse, de ce savoir qui est de faire les pains au chocolat. Donc, si vous voulez, ce procédé d'appropriation, il s'appelle la biopiraterie. Donc, c'est vrai que c'est un mot...
Est-ce que quelqu'un a piqué la Madeleine de Proust ?
Alors, je ne sais pas. Il faut, il faut éplucher les...
Quelqu'un a déjà fait ça, parce qu'on a tous le goût dans la bouche, mais...
Mais voilà, c'est bien la question. Alors en plus, ce n'est pas forcément des choses qui sont bonnes à manger, mais ce sont des choses très utiles qui peuvent servir à se soigner, qui peuvent servir aussi à devenir plus beau et plus belle, puisque c'est essentiellement pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques que se pose le problème.
Voilà, tout à fait. On constate une forte croissance, une forte de la demande de produits naturels. On consomme de plus en plus de produits directement issus de la biodiversité,
propolis.
D'une part.
Je vais aller en prendre un peu de propolis, d'ailleurs.
Le grand Fousset va se soigner, il reviendra tout à l'heure.
Si vous voulez, quand on est un peu curieux de regarder les chiffres sur les marchés de la cosmétique par exemple, de la cosmétique, on voit que le secteur des cosmétiques bio, c'est celui qui connaît la plus forte croissance. Donc, en France. C'est vrai aussi dans les économies développées, comme on dit. Du coup, on constate une forte demande de produits naturels, une croissance de la demande. Et or, les ressources, les matières premières se trouvent dans les pays à forte diversité biologique qui accueillent les populations autochtones, dans lesquelles vivent les populations autochtones.
Alors moi, j'ai lu quelque part que 90% des ressources naturelles étaient dans les pays du Sud, alors que
90% des brevets sont dans les pays du Nord, comme on dit, oui.
Donc ça illustre bien l'inéquité aussi des échanges, on imagine, un déséquilibre, puisque la France est dans une situation un peu particulière, hein, puisqu'elle a un fort réservoir de biodiversité grâce à ses territoires ultramarins.
Tout à fait.
Mais elle est aussi, donc elle est à la fois fournisseur de richesses de la biodiversité, mais aussi utilisatrice pour son industrie cosmétique et pharmaceutique.
Oui.
Mais du coup, comment on peut illustrer concrètement cette utilisation, cette captation de ressources naturelles par une grande entreprise ?
Vous avez un cas, par exemple, qui est assez connu, qui est le cas du Nîmes, qui était un cas qui s'est posé entre une entreprise américaine et une entreprise canadienne et la société civile indienne, qui a été, si vous voulez, le cas qui a fait jurisprudence sur la question de la biopiraterie. Donc vous avez ce Nîmes qui a un arbuste qui pousse de manière endémique en Inde, et qui est utilisé de manière traditionnelle pour énormément d'applications liées à la santé, pour ses propriétés fongicides, donc pour la lutte contre les champignons.
C'est insecticide aussi,
insecticide,
il me semble.
Également, voilà. Donc si vous voulez, il y avait une connaissance traditionnelle des usages du neem, des propriétés de ces fruits. Et ces connaissances qui ont été brevetées par les entreprises canadiennes et américaines. Concrètement, ça a consisté, ces entreprises ont envoyé certainement des émissaires observer, connaître, comprendre la biodiversité indienne. Ils sont revenus avec des plantes qui paraissaient avoir un fort potentiel sur les marchés, notamment pour les propriétés insecticides. Il y a un marché extraordinaire pour cette, je veux dire, très important pour ces applications. Et du coup, le fait de poser un brevet pour cette entreprise, ça a permis d'avoir l'exclusivité de cet usage du neem.
J'ai entendu dire un truc, parce que j'ai des amis, j'habite dans le sud, et qui ont mis des ruches chez moi. Et donc, il paraît que, justement, l'industrie pharmaceutique a vraiment un peu s'est approprié tout ce qui était produit dans les ruches, c'est-à-dire la propolis, justement, tout genre de trucs. Et ils ont plus le droit. Avant, les apiculteurs vendaient leur propolis, qui sont des produits qui font beaucoup de bien, quoi, pour l'être humain. Et maintenant, il y a eu... Enfin, je ne sais pas si tu es au courant, moi, je ne suis pas plus au courant que ça, mais il y a un truc avec les entreprises pharmaceutiques, quoi, qui se captent tout et qui, du coup, le diluent et vendent des pchit-pchit, des machins, qui sont, voilà, on va dire... Il y a 0,0,0 de propolis, quoi, c'est ça. Alors que c'est une pâte qui se mâche. Voilà.
Ben, c'est exactement le même esprit. C'est-à-dire qu'on constate dans beaucoup de domaines des phénomènes de privatisation du vivant, comme on peut dire.
On a un autre exemple en France, hein, avec un truc au nom un peu barbare qui est la loi sur les COV. Donc en fait, comment on interdit aujourd'hui aux paysans de ressemer leurs semences de ferme gratuitement, ce qu'ils ont toujours fait, hein, finalement, puisque les paysans opéraient une sélection adaptée aux réalités de la région, du climat dans lequel ils produisent. Et suite à une loi qui a été déposée et votée sous la mandature précédente, aujourd'hui, la possibilité de ressemer ses propres semences est extrêmement... il faut payer, en fait. Donc, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à revisiter cette question-là. Mais disons que ça rentre dans la même logique, finalement,
de priver de la liberté.
De privatiser le vivant. Non, mais au-delà de ça aussi, c'est de se dire que finalement, sur le vivant, sur des plantes, sur des semences... On peut se dire que c'est privé, que ça n'appartient pas. Alors qu'on peut se dire que plutôt, ça appartient au bien commun, quoi.
Ouais. En fait, exactement.
Tout ça, on fait pareil, quoi.
On constate de plus en plus qu'il y a une vertu à la diversité, et notamment à la diversité culturelle. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de notre action, de notre engagement sur cette question de la biopiraterie, on a essayé d'établir, enfin en tout cas on s'est questionné sur quelle est la valeur finalement des savoirs traditionnels, pourquoi ne sont-ils pas plus reconnus, voilà, et on a constaté divers exemples documentés de cas où des systèmes de connaissances traditionnels permettent une gestion des ressources naturelles qui est extrêmement adaptée au milieu dans lesquels ces modes de production, de culture existent. Ces cas sont extrêmement documentés, ils ont été documentés par l'UNESCO notamment, enfin c'est des choses qui sont connues mais peut-être pas assez dites.
Vous nous donnez un exemple?
Par exemple, voilà, on avait rencontré on avait rencontré une chercheuse qui s'appelle Marie Rouet, qui avait travaillé sur un programme avec les Samis de Laponie. Le gouvernement en Laponie, il y a une forte exploitation de la forêt pour les papetiers. Du coup, il y a un problème de régénération des ressources. Il faut qu'il y ait toujours... il y a extrêmement de papier qui est consommé. Et donc, il fallait réhabiliter la forêt et on ne savait pas comment faire. Et c'est grâce à l'apport de cette population autochtone, les Samis, qui savaient de manière très pragmatique qu'il y avait une synergie, une symbiose entre les populations de rennes et la forêt. C'est-à-dire que vous mettez des rennes dans la forêt, la forêt se porte mieux parce que... Donc je passe les détails, je ne suis pas biologiste, mais qui a établi voilà, que les Samis avaient une compréhension de leur milieu qui était meilleure que les équipes de scientifiques qui ont pu aller dans cet endroit-là pour restaurer la forêt. Du coup, il y a une richesse dans ces savoirs traditionnels qui malheureusement est perdue ou alors est minimisée par la biopiraterie, par ces phénomènes de brevets qui sont posés sur des connaissances traditionnelles. Puisqu'ensuite, si je reprends le cas du Nîmes, par exemple, si vous voulez, il y a une telle consommation de ce produit, une telle exportation de la plante, que il y a eu une privation d'accès pour les populations locales. Voilà, c'est...
Il s'est passé un petit peu le même phénomène avec l'engouement pour l'huile d'argan au Maroc.
Tout à fait.
Qui, du coup, cet engouement dans nos pays riches, hein, ça a entraîné une augmentation très forte du prix de l'huile d'argan. Donc, ça rend l'accès à l'huile d'argan très difficile sur le marché marocain. Et pour autant, ça n'a pas entraîné une réelle augmentation, une réelle amélioration des conditions de vie, notamment des femmes qui sont productrices de cette huile, puisque ce sont essentiellement des femmes qui ramassent les noix d'argan, ouais, qui les broient, qui les transforment, en fait.
Quand j'étais au Maroc, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est... Maintenant, ils en ont moins.
Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi d'arriver à établir des filières équitables qui permettent à la fois de préserver les ressources, mais également de mieux partager la richesse qui peut être générée par cette exploitation.
Ce serait, idéalement, il faudrait arriver à des mécanismes qui permettent de valoriser, parce que c'est intéressant pour nous d'avoir accès à ces savoirs, à cette richesse, à cette biodiversité, puisqu'il y a des sources pour les médicaments, pour le bien-être extrêmement riches. Simplement, il faut que ça se fasse dans le cadre de la préservation du bien commun, c'est-à-dire de l'intérêt général qui est une diversité de façons de cultiver, un respect de la nature. Et nous, on pense que c'est lié à la diversité des cultures qui sont en général les détentrices de ces connaissances ancestrales.
Mais il n'y a pas beaucoup de biopirates, si.
Alors, c'est difficile de savoir exactement.
C'est des grosses machines, quoi. C'est ça.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Nous, on pense qu'il y a beaucoup de biopirates qui s'ignorent. Parce que... Certainement, déjà, pour commencer par la partie la plus facile.
Ou alors qu'ils n'ont pas l'impression d'en faire, plutôt.
Ouais, tout à fait.
Ouais,
c'est quand même quelque chose de très sophistiqué. Ouais. Ces concepts de diversité culturelle, etc. Sur le terrain, c'est évident, mais...
Pour eux, c'est normal, quoi.
Pardon ?
Pour eux, c'est normal. Du coup, ils n'ont pas l'impression d'être un biopirate.
Voilà.
Ouais. Ils font ça, ils détournent la fabrication, ils piquent tout, mais pour eux, c'est pour faire du fric, quoi.
Oui, voilà, c'est déjà bien.
Non, mais soyons francs, quoi, tu vois, c'est... Et du coup, c'est normal, parce qu'on est dans une société qui va changer dès demain. Donc,
elle n'a pas changé.
Si elle est en train, mais demain...
C'était quand, là ? C'était il y a 6 mois. Non, c'est vrai, moi aussi, parfois, je me demande. Hein,
mais... ouais. Donc, on dit que c'est demain que ça va changer. Mmh. Donc, le monde change demain, vendredi, pareil.
Ah oui, c'est vrai.
Oui. Donc, ouais.
Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a toujours un débat, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans maintenant, mais il y a toujours un débat entre les grands soirs et les petits matins. Et c'est vrai que finalement, moi je suis plutôt du côté des petits matins, et se dire que plutôt qu'attendre des grands changements, c'est bien d'essayer de faire évoluer les choses pas à pas, difficilement, et votre collectif agit dans ce sens-là.
On essaye en tout cas, bien sûr. De porter cette problématique à la connaissance des consommateurs et des institutions aussi, puisque en fait il y a un problème, il y a un vide réglementaire sur cette question-là, il y a un besoin d'encadrer les pratiques. Donc la communauté internationale s'en est saisie, par exemple dans le cadre, il y a une convention internationale sur la diversité biologique qui dit qu'il faut justement conserver les ressources naturelles, il faut les exploiter de manière durable, et il faut partager de manière juste et équitable les avantages qui sont tirés de leur utilisation, pour reprendre les mots Et forcément, la France a un rôle à jouer dans ce processus. Il y a une prise de conscience au niveau international. Maintenant, il faut essayer d'arriver à faire que ça rejoigne les pratiques. Les acteurs privés qui cherchent leur intérêt, qui ont à but lucratif, évoluent dans leurs pratiques sur la façon dont ils s'approvisionnent.
Révolue, ouais.
Mais en fait, les pays du Sud aussi commencent à s'organiser, parce que je crois qu'au Brésil, là, il y a eu quand même une offensive de l'État brésilien contre des entreprises qui s'étaient appropriées de manière indue des ressources. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de ce qui s'est passé au Brésil, justement ?
Tout à fait. Bah, l'État brésilien, qui est un État qui est position de... Il y a une forte biodiversité au Brésil. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher dans l'Amazonie. Donc le Brésil, c'est l'Amazonie, n'est-ce pas ? Enfin, il y a beaucoup d'Amazonie au Brésil, si je puis dire. L'État s'est saisi de ce problème. Puisqu'il y a énormément de richesses et de valeurs qui s'en vont vers d'autres pays, vers les pays du Nord, à travers la biopiraterie. Donc l'État brésilien a décidé de mettre en place une réglementation contraignante et a frappé fort au mois d'août, en condamnant 35 entreprises multinationales, dont des marques que l'on connaît tous, mais que je ne citerai pas ici, puisque la condamnation est encore en discussion. Mais il y a eu quand même cette annonce forte pour condamner 35 entreprises à des millions d'euros, l'équivalent de millions d'euros d'amende.
Donc c'était des entreprises qui étaient allées faire leurs courses dans la jungle amazonienne.
Si vous voulez, voilà, quand vous allez dans la jungle, vous avez je ne sais combien d'espèces, vous gagnez un temps fou à demander aux gens qui connaissent, aux gens du coin, aux peuples autochtones, quelle espèce est la plus intéressante, quelles sont les propriétés. Une fois que vous avez identifié les espèces comme ça, vous n'avez qu'à valider les propriétés en laboratoire pour remplir les contraintes, les réglementations des pays dans lesquels vous voulez commercialiser, dans le cas de l'Europe, qui sont assez précises sur l'innocuité. Il faut faire... Voilà. Mais donc, concrètement, vous avez gagné énormément de temps dans votre processus de recherche et développement.
Et on a le droit de piquer des...
Voilà, c'est justement la question. Moi, je propose qu'on sur les questions de réglementation.
De piquer les choses des autres.
Voilà. Donc, on reviendra peut-être sur le cadre légal dans la deuxième partie. On m'a cité comme un exemple le fait, par exemple, de pouvoir des peuples qui utilisaient la bave d'un certain crapaud pour ses propriétés cicatrisantes. Et un laboratoire, tout d'un coup, se dit, oui, à partir de ces propriétés cicatrisantes, est-ce qu'il n'y aurait pas des utilisations pour être anti-rides ? Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a l'utilisation, la duplication de la propriété déjà identifiée par les savoirs locaux, mais il y a aussi comment on va les transposer. Et donc, finalement, on est rarement attaqué par un jaguar dans les rues parisiennes. En revanche, il y a beaucoup de personnes, quel que soit leur genre, qui sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour essayer de ralentir la marche du temps. Et donc, c'est aussi tout ce phénomène qui est intéressant, qui est peut-être plus difficile à pister, puisque ça n'est pas forcément la propriété... identifier entre guillemets littéralement qui est capturé, mais c'est aussi la déclinaison de son usage.
Ça fait tout à fait.
Vous donnez raison au crapaud qui transforme en princesse.
C'est pour ça que si vous voulez.
C'était pas le prince qui était transformé en crapaud.
Nous, on n'est pas. On n'est pas.
Ces trucs transgenres, c'est fou.
On nous fait souvent cette remarque, mais attendez, vous allez freiner la recherche avec vos. Enfin, vous allez freiner la recherche qui est quelque chose qui génère beaucoup de choses intéressantes du point de vue de l'intérêt général aussi. Enfin, c'est une évidence. C'est pas ce qu'on dit en fait. C'est très bien si les laboratoires peuvent s'inspirer, avoir un échange avec les populations autochtones, et cet échange d'ailleurs peut aller dans les deux sens. Il y a des projets de recherche qui sont extrêmement parlants, notamment au Brésil, sur des échanges, une réciprocité, des savoirs traditionnels qui peuvent nourrir la curiosité, l'imagination de chercheurs, Et à l'inverse, les peuples autochtones qui sont des personnes qui aussi sont curieuses et s'intéressent à notre science, si je puis dire. Néanmoins, ce qu'on dit, c'est qu'il faut simplement juste demander leur consentement préalable avant d'utiliser une ressource génétique qui est liée à leur culture, à leurs usages traditionnels. Il faut les informer, puisqu'on va utiliser un élément qui est dans leur milieu. Et il faut que ce consentement, il faut leur demander leur accord, mais sur une base informée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment leur expliquer ce que l'on cherche à faire, ce qui n'est pas du tout évident.
Et limiter, parce que sinon, le problème, c'est de faire en excès après.
Oui, d'épuiser la ressource.
C'est
ça le truc.
Alors moi, je vous propose de garder plein de questions pour la deuxième partie de l'émission. Puis là, je vais passer le casque et la parole dans le même mouvement à Alexandre, qui va présenter plus en détail le grand petit poussé ou le petit grand poussé, je ne sais plus.
Merci, Laurence. Eh bien oui, alors aujourd'hui, notre invité musical, notre parenthèse musicale dans cette émission, puisqu'on fait ça en chaque troisième jeudi, j'avais envie, et on a la chance, de recevoir Pascal Fousset, qui est un artiste déjà confirmé, puisque Pascal s'est fait connaître pendant des années sous le nom de Petit Fousset, moi je l'ai connu du temps d'un cabaret rock notamment, ouais. Qui tournait beaucoup sur Paris. Et là, Pascal Fousset, qui vit plutôt dans le sud de la France, est parmi nous en ce moment, puisqu'il a amené sa roulotte sur les Champs-Élysées, puisque tu t'es installé devant l'Élysée, d'ailleurs.
Hein, devant.
Une belle place, quand même, sur
les champs. Je suis le voisin le plus proche de François, quand je me couche.
Exactement. Il y a peut-être le nôtre, quand même.
Il y a le nôtre, mais il n'y a personne qui dort.
Il n'y a personne qui dort, il ne dort pas dans son restaurant. Il doit travailler tard, quand même, mais bon. Ouais. Et donc voilà, donc Pascal, tu travailles depuis un an et demi sur ce spectacle pour enfants, plutôt.
Ouais, c'est un spectacle que j'ai créé pour Noël il y a un an.
D'accord.
Sur une demande, on m'a dit « Ah, ça serait bien que tu fasses un truc pour les enfants ». Donc j'ai dit « Allons-y, on va faire des chansons, des nouvelles chansons, parce que j'écris des chansons, et puis j'ai créé ce spectacle ».
Et cette roulotte, elle s'était faite avant, alors, ou elle s'était faite...
La roulotte, elle s'est faite en 2010, ouais.
D'accord.
Donc elle existe depuis 3 ans, et j'ai démarré avec Avignon, mais c'était un spectacle de chansons
D'accord.
tout à fait pop.
C'est une très belle roulotte en bois, ouais. ça fait rêver, qui a été fabriquée dans le nord de la France, je crois, non, c'est ça?
Fabriquée un peu, ouais, il y a eu plusieurs endroits.
Plusieurs endroits.
Un an et demi de boulot.
D'accord. Une belle roulotte qui te sert en même temps de scène et puis d'habitation. De scène,
d'habitation, là j'y vis. C'est
d'accord.
Et là, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait une fée, un canard, un cheval.
Il se passe plein de choses.
Hein, dans la roulotte alors.
Ils vivent avec moi dans la roulotte. La fée, bon, elle a des pouvoirs, donc elle s'échappe le soir après le spectacle. Mais sinon, j'ai avec moi Coin-Coin, d'ailleurs je l'ai amené.
Ah, Coin-Coin.
Des Coin-Coin.
Ah oui, on a beaucoup de chance parce qu'on peut voir Coin-Coin.
Les éditeurs ne voient pas, voilà. Mais j'ai pu amener Coin-Coin.
Et Coin-Coin est magnifique.
Ah, il est impressionnant. Il est impressionnant.
Voilà.
Voilà, donc c'est Coin-Coin.
Coin-Coin, les yeux brillants, un petit peu de Darth Vader, hein, je trouve.
Oui,
mais...
c'est un personnage sympathique qui fait que des bêtises. Voilà. Donc c'est Coin-Coin.
Il a une tête de Coin-Coin pour parfois
c'est vraiment une vraie tête de Coin-Coin.
C'était une parenthèse purement visuelle, mais...
Alors, on a entendu un extrait, pas plus qu'un extrait, on a entendu une chanson que déjà en début d'émission, qui s'appelle L'Extravagant, qui est une chanson que tu as dans ton répertoire depuis quelques années, d'ailleurs.
Ouais.
Et que tu joues dans ce spectacle.
Je joue dans ce spectacle parce que j'ai gardé la musique, j'ai changé les paroles pour les enfants, et le but du jeu, c'est qu'ils viennent sur scène et ils font ce qu'on a répété avant de faire de l'émission. Là.
Voilà, est-ce qu'on va faire tous ensemble, du coup ?
Est-ce qu'on va faire tous ensemble ?
Est-ce qu'on va faire tous ensemble ?
Et ils s'amusent drôlement, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est d'amener les enfants sur scène, parce que c'est marrant, quoi. Au début, ils sont tous là, « Ouais, je veux !» Puis une fois qu'ils y sont, il y a la réaction de timidité qui « Oh, qu'est-ce que je fais là ?» Mais on arrive souvent à les faire... j'arrive à les faire danser facilement, et c'est vraiment marrant. Et chaque chanson est assez interactive. C'est-à-dire que moi, je me déguise. Ce n'est pas évident de faire, même à la radio, un truc, parce que c'est... faut que je vous fasse participer. Quoi.
Alors, on s'est entraîné, et pendant que tu sors ta guitare, on va rappeler que dans 2 jours, c'est les vacances scolaires, même demain soir.
Ah oui.
Personnellement, j'ai hâte. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et du coup, pendant les vacances scolaires, tu vas jouer. Le spectacle a lieu tous les jours, à différentes heures en fin d'après-midi.
Tous les jours à 16h30, 17h30, sur les Champs-Élysées, comme tu disais, à côté de le nôtre. Et puis, donc, c'est toutes les vacances.
Pendant toutes les vacances.
Pendant toutes les vacances. Et puis samedi matin, j'en profite pour parler d'un... Il y a un énorme sapin, tu sais, qui est à la Concorde. Et oui, de 35 mètres, c'est le plus grand sapin d'Europe qui a été mis là. Quoi. D'accord. Donc, c'est un... Et à 11h, il y a un spectacle pour tous les enfants qui veulent venir aussi. Donc c'est à 11h du mat.
C'est un spectacle gratuit.
Spectacle,
alors, du coup,
voilà. Et c'est pour les enfants. Je ne voudrais pas me planter de l'armée du... Enfin bon, il y a plein d'enfants qui viennent et il y aura des cadeaux qui seront...
Mais du coup, ça sera près du sapin ou près de ta roulotte?
Non, là, ça sera au sapin, ça sera au sapin. La Concorde, à 11h du matin.
Avec Coin-Coin.
Avec Coin-Coin qui fera une apparition peut-être. Ou... Enfin, je vais chanter avec tous les enfants. Et il y aura autre chose à 16h30, mais là, ça sera à la roulotte. Donc 16h30, 17h30, et c'est tous les jours. Donc ça, on vous l'a déjà dit. Hein. C'est bon.
Nos auditeurs sont très intelligents. Ils ont compris. Bon. Ils ont pris des notes. Et au pire, ils iront voir sur le site de Zoom Écologie.
Voilà.
Pour avoir les dates.
Mobile Môme.
Et ben on va écouter et on va même chanter. Parce qu'avec Laurence et Mathieu, on s'est entraînés tout à l'heure. Oui. Donc c'est bon. Les choristes sont prêts.
Vous êtes prêts, les choristes?
Et ben Pascal Foussé en direct et en live dans Zoom Écologie 106.3, fréquence Paris Pluriel. Je dis ça parce que j'ai pas réussi à lancer le générique tout à l'heure. Donc je me rattrape un peu sur la présentation.
Donc on est là, donc là on va faire la chanson un petit peu avant, je vais faire une petite chanson pour les enfants.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, une petite chanson vraiment, et vous allez faire comme si vous étiez des enfants.
Oui,
ok, ok. Donc vous êtes tous en, voilà, vous revenez comme si vous étiez tout petit, donc tout est bien. Et c'est donc, moi j'arrive de Provence, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, et donc dans mon pays on fait comme ça, regardez. Dans ma belle Provence. Et là, vous faites « Olé !» Vous pouvez faire ça, les enfants? Dans ma belle Provence, olé! Voilà. Il y a un soleil comme ça. Et vous faites avec le doigt comme ça, c'est possible. Il y a un soleil comme ça, il y a un soleil comme ça, il y a un soleil comme ça. Et on le refait encore plus fort, les enfants, si c'est possible. Dans ma belle Provence, olé ! Ah là, l'ambiance monte, vous voyez. Dans ma belle Provence, olé ! Il y a des taureaux, et on fait des cornes comme ça. Il y a des taureaux, comme ça. Il y a un soleil, comme ça. Il y a un soleil, comme ça. Donc vous voyez, vous participez très bien. Et les enfants adorent.
On ne va pas s'engager vers une sorte de truc sur la tauromachie et tout, parce qu'on va être obligé de faire des discours.
Ah non, mais c'est pas la tauromachie, oh là là, non.
Ah ouais,
parce que l'olé, ah, c'est l'olé.
Elle est prête, attention, oui, Laurence, elle part au quart de tour. Au quart de tour.
C'était un olé, provençal, ouais. Olé, olé, olé. C'est un cri de joie, quoi. Olé,
olé.
Voilà, donc ça, c'est une petite chanson. Et puis sinon, alors vous allez faire pareil, vous êtes toujours des enfants. Hein. Aujourd'hui, vous êtes des enfants. Et c'est la chanson de Coin-Coin. Donc, mais je la fais, un petit extrait. Oui. Je mets pas le masque, parce qu'on est à la radio quand même. Et à chaque fois que je vais faire comme ça, vous faites... Coin-coin, ok? C'est ça, moi le canard géant.
Coin-coin.
Je m'appelle Coin-coin.
Coin-coin.
Je nage dans la mare.
Coin-coin.
Je n'ai plus un seul copain.
Coin-coin.
J'ai tellement grossi.
Coin-coin.
D'avoir mangé trop de pain.
Coin-coin.
Que je ne peux plus chanter.
Coin-coin.
Sans m'empêcher de postillonner. Vous voyez, c'est, voilà, donc ça marche très bien, vous voyez, ça marche avec vous, ça marche avec les enfants.
Ça marche avec nous, c'est que ça marche.
C'est que c'est bon.
Voilà. Zoom Écologie, nous aurons tout fait. Même Coin-Coin.
Même Coin-Coin, voilà. Donc après, je peux faire une chanson plus chanson, mais ça dépend du temps.
Oui, chante-nous l'extravagant, on a entendu.
Ah oui, d'accord.
Ah bah bien sûr.
Mais là, vous faites les chœurs.
Et on fait les chœurs, on est parti.
Ok. Vous aurez bien bossé aujourd'hui, hein. N'oublie pas ton vinyle, pense à tes fossiles. As-tu pris ton rimmel? Mon Dieu, ce que t'es belle. T'as pensé à Betty, à coiffer sa perruque. Repassa au fuchsia, faut qu'elle étincelle. Mais ça fait des mois, oua, 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 que je pense qu'à moi. Oua, 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 ça me prend du temps d'être un extravagant. Pense à cirer mes boots, prendre ma veste à rayures, ma cravate indigo, je fonce vite à la radio. Où est passée ma guitare? Roule-moi vite un cigare. Pense à mes partitions, la SACEM me doit des ronds. Mais ça fait des mois,
ouah, ouah, ouah,
que je pense qu'à moi. Ouah, 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 ça me prend du temps d'être un extravagant. Petit dernier, mais ça fait des mois. Ouah, 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 ouais, que je pense qu'à moi. Ouah, 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 ça me prend du temps d'être un extravagant. 10 heures, je descends au bar, boire un jus de poire. Réunion au sommet, à la terrasse du café. Je regarde passer les filles qui font leurs courses en résille. Et j'ai mon cornet vanille, tout ébouriffé. Ce soir je fais un concert, j'ai une patate d'enfer. Et je vais toutes les faire chanter sur mes succès. Mais ça fait des mois, ouah, 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 que je pense qu'à moi. Ouah, 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 ça me prend du temps d'être un extravagant. Vous avez été fantastique. Bravo. Fantastique. Vous avez été fantastique.
Mais, voilà. Mais toi aussi, c'était très très chouette.
Ça nous plonge un peu dans un univers très égocentrique de l'artiste, en fait,
complètement.
Cette chanson.
C'est la chanson extravagante.
T'es passé par cette phase un peu de...
Ouais, maintenant je me suis... Voilà, je suis passé dans mon mobile home, mais avant j'étais très très extravagant.
Eh bien, merci Pascal. Donc, on rappelle que voilà. C'était Pascal Fousset, qu'il est tous les jours à partir de samedi, tous les jours pendant les vacances scolaires sur les Champs-Élysées, sur le marché de Noël, avec sa roulotte devant le nôtre et juste devant l'Élysée. Voilà, donc allez le voir avec vos enfants. C'est en fin d'après-midi, 16h30, 17h30 à peu près.
Voilà.
Et c'est un spectacle qui dure 45 minutes et qui coûte 5 euros. On aura tout dit. C'est ça.
On a fait le tour, c'est super.
On peut même distribuer des tracts. Ouais. Pour la fin de l'auditeur, c'est moins pratique. Bon, bah Laurence, tu vas reprendre ton débat et puis moi, je vais retourner dans ma cabine de technicien.
Ok, bah en tout cas, merci Alexandre. Nous, encore une fois, ça c'est l'avantage d'être dans le studio, c'est qu'on continue à voir Alexandre, à défaut de l'entendre. Donc on va reprendre, on va continuer le débat que nous avons initié tout à l'heure sur la biopiraterie et plus exactement, du coup, la lutte contre la biopiraterie. Alors mon petit doigt m'a dit que l'Europe, justement, s'engageait ardemment dans la lutte contre la biopiraterie, enfin c'est ce qu'elle annonce, en tout cas l'Union européenne, puisque elle est en devoir de se mettre en conformité, si je peux dire, par rapport aux textes internationaux qui existent et notamment le protocole de Nagoya. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Mathieu, sur effectivement les possibilités en termes de droit international, de droit européen, de droit français, pour mieux encadrer la biopiraterie, c'est-à-dire pour éviter que ces pratiques se reproduisent, sans rentrer forcément. Alors, c'est toujours assez compliqué, hein, ces histoires, droit international, droit européen, droit français, tout ça. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le processus en cours ?
Volontiers, je vais essayer du moins, après cette sympathique interlude, de reprendre le cours, oui, de ce qu'on se disait tout à l'heure. Le processus, il y a un processus en cours au niveau européen et parallèlement un processus en cours dans chaque pays de l'Union européenne, notamment en France. Donc ça consiste à établir un texte de loi, que ce soit en Europe ou en France, qui régulerait les pratiques de biopiraterie.
Alors, si mes informations sont bonnes, il me semble qu'il y a même eu un rapport à l'Assemblée nationale très récemment, oui, porté par Daniel Auroi sur ces questions-là.
Alors, on peut se réjouir, en effet, oui. Nous, on a été très heureux de voir que les institutions et l'État ou la puissance publique se saisissaient de cette question. Parce que forcément, nous, en tant que société civile, on peut interpeller, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc à un moment donné, il faut que l'intérêt général soit défendu par les institutions, de notre point de vue, n'est-ce pas ? Et oui, donc il y a eu ce rapport de Mme Danielle Roy qui a permis à l'Assemblée nationale de prendre position sur cette question, qui a été un rapport tout à fait fouillé et qui a été adopté à l'unanimité, je crois, de la Commission des affaires européennes. et qui pour nous présente des signes très positifs, puisque en gros, ce rapport, si j'ai bien compris, dit qu'il faut une réglementation qui soit plus ferme que ce qui était prévu, qu'il faut un encadrement et une surveillance un peu plus, plus appuyée des pratiques.
Parce qu'en fait, apparemment, il y a quand même une crainte que cet encadrement de la biopiraterie ne se fasse que sur ce qu'on appelle des bonnes pratiques des entreprises qui parfois peuvent se retrouver dans cette situation finalement assez confortable de se contrôler elles-mêmes plutôt que d'accepter que d'autres les contrôlent. On sait très bien que, de manière générale, ces bonnes pratiques, elles ont toujours une limite et c'est toujours très intéressant d'avoir un tiers qui peut effectivement vérifier que tout est en conformité de ce qui a été décidé sur le plan du droit.
Oui. C'est difficile de me positionner sur cette question, puisque forcément, qu'est-ce qui fait changer les pratiques ? Est-ce que c'est un règlement ? Quel est l'impact d'une loi sur les pratiques ? Encore faut-il que la loi soit armée, qu'elle soit mise en
contrainte. Qu'elle soit contraignante aussi ?
Voilà, qu'elle soit contraignante. En tout cas, on peut dire que c'est une vraie démarche et une vraie avancée. Et certainement que ça va interpeller la conscience des entreprises pour s'améliorer, puisque les entreprises ont toutes les ressources, en tout cas pour essayer d'aller vers des filières qui sont qui sont pas biopirates. Bon, on peut toujours rêver, vous me direz. Mais...
C'est peut-être aussi dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes.
Probablement. Si vous voulez, il y a cette situation que j'essayais de schématiser en disant, vous gagnez, quand vous cherchez à développer des produits issus de la biodiversité, vous gagnez beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent en allant demander aux détenteurs des savoirs locaux quelles sont les plantes intéressantes, si je puis résumer ainsi. D'un autre côté, l'esprit du protocole de Nagoya et des lois qui sont en train d'être débattues dans les enceintes européennes et françaises, c'est de dire... Il faut un consentement préalable, il faut établir un dialogue avec ces populations autochtones et il faut établir une relation de réciprocité où vous allez échanger, partager la valeur créée et en fait vous allez exercer une responsabilité, vous en tant qu'acteur sur telle plante qui consiste à défendre, préserver l'intérêt général qui est d'avoir une biodiversité à développer, qui est d'avoir des cultures variées qui évoluent en permanence, qui est d'avoir un monde divers.
Alors,
donc c'est pas facile de faire le pas de l'un à l'autre, si vous voulez, quand on est là avec des actionnaires et un compte de résultat. Je comprends que ce soit un vrai défi, mais en tout cas...
En termes d'image aussi, les entreprises ont certainement à y gagner, hein, plutôt qu'apparaître comme biopirate. Il y a un pirate sonore dans la cabine.
Il y a la Zumba.
Mais, il faudrait leur demander, vous savez. Moi, je ne peux pas parler à leur place.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a des labels aujourd'hui qui existent ? Parce qu'on a il y a la bio, il y a des labels équitables pour un certain nombre de choses. Alors, est-ce que, par exemple, pour la cosmétique, on peut déjà être assuré en achetant des produits a priori naturels, par exemple, de ne pas participer malgré soi au pillage des ressources des populations autochtones qui sont... on le sait, hein, quand même très très menacés dans leur existence aujourd'hui par nos modes de consommation.
Eh bien, à notre connaissance, c'est quelque chose de très 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 rare. Il y a très très peu d'entreprises, il en existe, mais c'est vraiment très rare, qui ont cette vraie démarche de réciprocité avec les populations autochtones, qui ont cette vraie démarche de reconnaissance de tout l'apport que les savoirs traditionnels peut leur fournir dans le cadre de leur activité d'entreprise. Parce que quand vous vendez un produit, même au niveau de la marque, si vous voulez, le commerce équitable, ça permet de valoriser le travail des producteurs. Mais quand vous êtes dans des produits où le savoir est extrêmement important, l'image joue un rôle extrêmement important, le commerce équitable ne permet pas de prendre en compte cette dimension-là. De tout ce savoir millénaire dont bénéficie l'entreprise au moment où elle décide de commercialiser un produit qui est issu de, d'une plante qui est associée à un savoir. Voilà.
Alors, si on veut en savoir...
Donc,
oui.
Il n'existe pas vraiment de modèle. Alors, nous, dans le sein du collectif EPATRO, on a une entreprise qui nous a fait une démarche volontaire de nous fournir des contrats et des preuves de son engagement dans cette manière-là et de son respect des peuples autochtones. C'est des entreprises qui, en général, travaillent avec des ONG sur le terrain et qui aident quelque part les ONG, puisqu'il y a la question du développement économique qui est une question importante. Et les débouchés, si vous voulez, il y a des consommateurs dans les pays du développé qui sont capables de comprendre cette importance de préserver la biodiversité. Il y en a certainement plus, si vous voulez, ici que dans des pays, par exemple les pays andins ou les pays amazoniens ou en Afrique du Sud. On a une conscience plus développée ici. Donc, si vous voulez, les entreprises et les ONG peuvent arriver à créer des situations qui sont profitables pour les populations autochtones.
Et on peut citer le nom de cette entreprise?
Oui, on peut la citer, puisqu'en effet, on a audité donc ces pratiques au sein du collectif et on a validé donc... qu'elle correspondait avec ce que nous... C'est une entreprise qui s'appelle AINI, voilà. Qui propose des produits amazoniens, issus de la biodiversité amazonienne, et qui travaille vraiment avec les peuples autochtones.
Donc, du coup, qui finance quel type de projet avec les ONG?
Alors, ils ont mis en place un système qui est une alternative, si vous voulez, sur le terrain, qui consiste à reverser une partie de leur chiffre d'affaires aux populations, à des structures qui sont... géré par des représentants des populations autochtones, donc même si cette notion de représentant est toujours délicate à manipuler, des ONG locales qui ont la connaissance du terrain, et donc c'est des structures qui agissent comme des petites fondations, mais qui financent des petits projets. Donc ça reste quand même à petite échelle, mais voilà, c'est une bonne démarche.
Et ils fabriquent quoi? Ils fabriquent des cosmétiques?
Des produits cosmétiques,
d'accord,
voilà.
Et on les trouve où, ces produits cosmétiques?
Je ne veux pas faire la...
Non, non, mais je vous posais la question. C'est largement distribué?
Non, mais...
Ou c'est vraiment un truc de niche qu'on trouve par Internet? C'est-à-dire, est-ce que milliards d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent ce soir, qui n'ont qu'une envie pour leurs achats de Noël de mettre sous le sapin des produits équitables et bio, tant qu'à faire, est-ce qu'ils ont une chance de trouver ces produits, ou est-ce qu'ils doivent les commander sur Internet? Est-ce qu'il y a des mots de passe secrets pour... Parce que c'est pas une marque non plus forcément extrêmement connue, quoi.
Non, c'est pas des marques. Encore une fois, c'est des petites entreprises qui proposent des alternatives. Il y a eu des tentatives. Hein, je suppose qu'en allant sur le
j'imagine.fr
ou .com, voilà, toutes les informations doivent être là. Il y a ensuite des entreprises plus grosses.
Il y a des des grosses qu'ils font aussi.
Bah nous on essaie de suivre ça, si vous voulez, mais il y a des grosses qui se regroupent, et forcément c'est quelque chose qui va leur tomber dessus, ou c'est nécessaire, voilà. Il y a des entreprises qui commencent à avoir des chartes de bonnes pratiques ou des mécanismes comme ça d'auto-contrôle. Bon, nous on reste très vigilants vis-à-vis de ça, et on demande à avoir une tierce personne, en général des représentants des populations autochtones, qui puissent nous donner une information qui va dans le sens positif.
Mais c'est vrai que la question de la consultation des populations autochtones, c'est pas non plus évident, parce que en général les modes de consultation, ça implique d'avoir accès à Internet ou d'avoir, je sais pas, des QCM ou des trucs à remplir, etc. Est-ce que c'est vraiment adapté aux populations autochtones? Parce qu'on imagine que dans la jungle amazonienne ou dans plein d'endroits, en Guyane et ailleurs, c'est pas forcément évident de pouvoir vraiment recueillir l'opinion, la vie dans des populations, plus qui sont structurées parfois très différemment des structures auxquelles nous sommes habitués.
Oui, bien sûr. Je suppose qu'il faut être pragmatique dans ce domaine et essayer d'expérimenter constituer un dialogue. Si vous voulez, souvent, c'est un peu une nécessité pour les populations. Moi, par exemple, je peux parler de ce que je connais, c'est plus simple. Donc, je suis allé au Pérou j'ai rencontré des organisations autochtones. Donc, il y a une forte conscience. Quand on dit les populations autochtones, ce sont en général des structures qui se rapprochent d'ONG, enfin moi celles que j'ai rencontrées, qui sont tout à fait organisées, conscientes de ce problème. D'ailleurs, c'est en allant au Pérou que j'ai découvert ce problème de la biopiraterie, parce que c'est ces mêmes qui me l'ont dit. Donc, y a des interlocuteurs, on peut trouver. Dans toutes les régions du monde, ne sont pas aussi bien organisées, mais si vous voulez, c'est un peu une nécessité aussi pour les populations autochtones de défendre, de participer quelque part à cette défense de l'intérêt général aussi, en étant organisées, structurées, en défendant leur savoir traditionnel, en défendant leur milieu. Donc bien sûr, il y a un tel écart de moyens et il y a une telle injustice qui à leur encontre qu'on peut voir dans beaucoup de cas qu'il faut les aider.
Mais par exemple, le cas du Nîmes, finalement, c'est une histoire qui a très très mal commencé, mais qui a plutôt bien fini.
Alors, si vous voulez, ça a permis de faire une jurisprudence et donc de rendre public ces questions-là, d'avoir un antécédent juridique. Je suis pas sûr que sur le terrain ça soit très bien passé, je saurais pas vous dire. Mais
les brevets ont été.
Une partie des brevets ont été abrogés au niveau européen. Il y avait des brevets qui étaient posés aussi au niveau américain. Parce que peut-être pour les auditeurs, si vous voulez, les brevets, il y a trois grands offices dans le monde, il y a l'office européen, l'office américain et l'office japonais. Les 90% des brevets dont on parlait au début de notre conversation sont octroyés par ces trois offices. Alors que les 90% de la biodiversité sont dans des pays où le système, qui n'ont pas contribué à définir le système de propriété intellectuelle. Le système de propriété intellectuelle, c'est très lié aux notions de croissance, d'innovation, qui sont celles du monde occidental. Et donc, il n'y a pas d'équité. Ce système n'est pas équitable par rapport à des populations autochtones qui n'ont pas participé à sa conception, etc. Et du coup, je me suis un peu égaré. Je crois que j'ai oublié votre question.
Mais alors, ça tombe bien parce que moi aussi. Mais si j'ai bien compris, donc il y a au niveau européen, là, il y a la Commission européenne, donc qui a fait une proposition de règlement. Il y a un travail qui se fait aujourd'hui par les parlementaires, autant au niveau national, vous le mentionniez tout à l'heure, mais aussi au niveau du Parlement européen. Et est-ce qu'on a l'espoir de voir adopter des textes qui seraient contraignants, qui permettraient réellement de lutter contre ces pratiques de biopiraterie dans un avenir proche, ou est-ce que tout ça va rester de l'ordre du vœu pieux et des bonnes intentions internationales, comme c'est malheureusement un peu trop souvent le cas quand il s'agit de biodiversité ou de lutte contre le changement climatique?
Bien sûr qu'on a un espoir. C'est une merveilleuse opportunité que de saisir de cette question, où on a l'opportunité de réfléchir à notre mode de développement, à des manières d'utiliser la biodiversité qui soit plus durable, plus pérenne, et à finalement réfléchir même à nos modes de vie en développant ce dialogue avec des cultures anciennes, des cultures autochtones. Donc on a bon espoir, il faut soutenir ces processus. L'Europe affirme que ratifiera la convention, le protocole de Nagoya d'ici 2014, dans une échelle de temps tout à fait immédiate, il y a une opportunité pour faire avancer ce sujet.
Bah, formidable. Enfin, tout ça, c'est Pascal Fousset qui le rappelait tout à l'heure, dans la limite du fait que nous sommes le 20 décembre et que demain, donc...
C'est tout... de quoi l'avenir sera.
Voilà. Donc, en attendant, alors pour ma part, d'aller retrouver les savoirs traditionnels d'une province oubliée qui s'appelle le Forez, et notamment de ces nombreux savoirs gastronomiques qui ne sont pas négligeables, je vous propose de vous remercier, Mathieu Ellul, pour tous ces enseignements sur la biopiraterie. Je crois qu'on en sait beaucoup plus maintenant. Il y a un site, j'imagine, pour le collectif.
Oui, tout à fait, c'est biopiraterie.org.
Et donc Pascal Fousset avec son mobile MOM, qu'on peut donc retrouver, Pascal,
sur Facebook, Pascal Fousset.
Et puis, donc, au marché de Noël, voilà. Des Champs-Élysées, formidable. Quant à Alexandre, on va le On va le remercier, lui souhaiter à lui aussi d'excellentes vacances. Et puis, une pensée pour Sophie Roux, qu'on retrouvera en janvier. Et puis, une pensée très, très forte pour Cyril et tous ses amis, tous nos amis qui sont à Notre-Dame-des-Landes et qui luttent aussi pour un autre modèle de société plus pérenne et plus respectueux de la planète. Excellente fin d'année à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous en 2013, parce qu'on est vachement optimiste et on pense qu'on sera encore là pour être mobilisés, lutter. On a encore plein de luttes à mener. Donc, restons ensemble et retrouvons-nous en 2013.
Merci.
Pahou, pahou, babé. Hey, yahoua, hey. Pahu pahu baba be ya bombe ahu baba be ahu bombe jusqu'où faut-il aller pour toucher les étoiles jusqu'où faut-il aller pour se voir sur une toile jusqu'où faut-il aller pour espérer la palme jusqu'où faut-il aller quitte à donner son âme mais jusqu'où cette soupe que je ne peux digérer, de dire que ça me dégoûte, tant je trouve ça, de dire que ça me dégoûte, tant je trouve ça, mais jusqu'où? Prends-toi pour Dieu sur terre, tu feras des heureux, des gens bien convaincus que tout ça c'est bien vrai. Tu seras l'univers et c'est bien vrai.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.